L'écho
du
parquet.
L'écho du parquet.
L'écho.
L'écho du parquet.
L'écho du parquet. L'émission qui met le feu
au plancher.
Il se dansait beaucoup ici dans,
ouh, dans le
monde. Des valses, une heure de temps.
Ah oui,
monde.
Une heure et quart.
Ouais.
Et bonjour.
Bonjour. Vous êtes dans l'écho du parquet, une émission consacrée aux musiques et danses traditionnelles que vous pouvez réécouter, enfin qui est diffusée sur quelques radios locales de Drôme-Ardèche, fréquence 7, Radio Méga ou Radio Saint-Féréol. Vous pouvez aussi nous écouter en ligne.
En ligne, c'est soit sur notre audio blog Arte Radio, soit on passe aussi par la plateforme modale de la FMDT. Alors, de quoi on va parler dans cet épisode numéro 10 ?
Alors aujourd'hui, on va parler de Edensia, qui est un groupe local que vous pouvez retrouver assez souvent dans le Diwa, mais voilà, un petit peu partout ailleurs aussi. On aura une interview. Mm-hmm. Et puis, on parlera, pour tous les fans de métal qui nous écoutent.
Ah, il y en a plein, on sait. En fait, on ne sait pas.
On parlera de folk metal.
D'accord.
Et puis, on commence tout de suite avec un groupe qu'on aime beaucoup et qu'on voulait vous faire découvrir, qui s'appelle...
Diatocello. Alors Diatocello, comme son nom l'indique, c'est un duo qui est composé d'un accordéon diatonique et d'un cello, c'est-à-dire un violoncelle. Au diato, c'est Amélie Denarier, qui est par ailleurs la moitié des excellentes éoles. Et au violoncelle, c'est Mathieu Mitterrand, un violoncelliste qui est venu du jazz. Donc on comprend d'emblée avec ces CV qu'il y a gros de niveau en termes de maîtrise instrumentale et de richesse harmonique. Les morceaux sont pensés pour la quasi-totalité comme des danses, mais ça s'écoute aussi très bien au casque, dans son fauteuil de salon, comme on écouterait un disque de musique classique. Enfin, un disque de musique classique qui donnerait quand même très vite envie de se lever, de faire les pas qui vont bien avec. Comme en témoigne cet extrait de leur deuxième disque, L'Échappée, paru en 2021. Ce morceau s'appelle « Comme des mouches ». Vous entendrez un petit peu le bourdonnement de la mouche à l'accordéon début. Et c'est une polka.
Thank you.
entendre Pleine Lune, qui est un morceau d'Edencia, une bourrée à deux temps, qui a été enregistrée au Festival de la Pouméane, dans le Diwa. Et c'était donc Edencia, dont on écoute tout de suite une interview. On les a rencontrés il y a quelques temps, et on commence avec Tao, qui est à l'origine du solo Dia Tao.
Alors, ben, moi je m'appelle Tao, je fais de l'accordéon diatonique, donc on appelle ça du diato, et le jeu de mots était assez simple à trouver, de coller les deux pour faire diatao. Voilà. Je fais de l'accordéon depuis bientôt 9 ans, et voilà, je me suis un peu lancé comme ça en solo, suite à des tentatives de groupe qui n'ont pas marché, et voilà. J'ai vraiment fait du diato pour la danse. En fait, j'ai découvert la danse avant, vers 2010-2011 à Montpellier, par hasard dans la rue. Et l'accordéon étant un instrument phare du bal, ça fait partie de l'instrument phare qui m'a attiré. Et j'avais envie de me mettre à la musique. Et le coup de chance a fait que, en en parlant un peu autour, c'est parvenu aux oreilles de mon oncle qui avait un accordéon diatonique dans son garage depuis plus de 20 ans. Donc ça a été un cadeau de Noël assez merveilleux qui a changé plein de choses. Et donc j'ai beaucoup joué dans les premières années. Et dans le but spécifique de faire danser. Voilà, c'est vraiment le but du truc. Maintenant je commence lentement à comprendre qu'on puisse vouloir faire de la musique pour autre chose que la danse. Mais la première chose, l'idée, c'était vraiment de faire de la musique à danser. Et vu que j'étais déjà dans les bals, je savais qu'est-ce que je voulais jouer, pour qui, comment, avec un peu mes accordéonistes phares et tout ça.
On avait remarqué qu'au moment de la sonorisation, tu disais qu'il y avait quelque chose de spécifique sur la main gauche à laquelle tu étais très attaché sur la manière de sonoriser. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
J'aime bien quand ça fait boum, quoi. J'aime bien quand il y a du gras. Surtout, c'est tout l'avantage de la sonorisation, c'est autant la main droite, c'est chantant, c'est dans les aigus, et la sonorisation ne va pas apporter énormément, juste le fait qu'on entende. Mais la sonorisation pour la main gauche, ça permet, s'il y a un caisson basse ou un truc comme ça, de rajouter du gras et de rajouter du volume. Et moi, j'aime bien quand il y a du gras, quoi.
Je crois que ça se traduit notamment sur les branles d'osso. Et tu es un grand défenseur du branle d'osso. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à cette danse ?
Alors,
et la manière dont tu l'interprètes.
C'est une danse assez fabuleuse du sud-ouest, là où il y a plein de danses fabuleuses. Et c'est une danse qui peut se danser ou à deux, branle en couple. Mais en général, c'est en chaîne. Et le branle d'osso ou branle béarnais, c'est en général on le danse en chaîne, et c'est un truc avec c'est une rythmique qu'on retrouve pas dans les autres danses, un truc qui fait boum tac tac boum tac tac boum, et il y a plein de manières de l'interpréter. Et moi, vu que c'est Cyril Brotteau qui m'a un peu montré ça, il m'en a appris un et c'est suite à ça que j'en ai composé un. Lui, il a tendance à ralentir un peu par rapport aux trades qui peuvent être très doing, 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 doing. Lui, il ralentit, il met de l'emphase sur le premier temps. Et moi, j'ai encore plus mis d'emphase sur le premier temps. Apprendre le branle d'osso, c'est toujours compliqué. Et là, ça fait 2-3 ans que ça commence vraiment à venir beaucoup en balle. Et le truc systématique de ce qui se passe, c'est qu'il y a un branle d'osso. Et pendant 20 minutes, une demi-heure après, il y a des gens qui essayent de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Et d'autres qui essayent de leur montrer. Et c'est assez systématique. Moi, vu que je l'ai appris par la fin, et habité par Cyril Brotteau, j'ai ce truc du très boum, tac, tac, très ancré dans la terre. Et en fait, le branle d'osso, c'est pas une danse dans la terre, c'est une danse rebondie. Et en fait, j'ai montré un peu, en ancrant un peu beaucoup trop dans la terre. Et ce qui fait que ça a donné un peu le branle du Diwa et le branle des crapauds. C'est pour ça que mon branle s'appelle Si les crapauds avaient des ailes. C'est parce que les gens ont commencé à vraiment mettre beaucoup d'emphase sur le premier temps et à vraiment faire un chblop. Et ça s'entend sur les parquets. Normalement, c'est un peu silencieux, un branle d'osso. Et là, on entend chboum. Bon, Donc maintenant, depuis, j'essaye de rattraper un peu le tir, mais le mal est fait. Et le truc étant qu'il y a des gens qui prennent énormément de plaisir à danser comme des crapauds. C'est compliqué de venir dire à quelqu'un « Non, c'est pas comme ça que ça se danse », si la personne prend vraiment du plaisir à la danser comme ça, quoi. Donc peut-être qu'on est dans une étape de spéciation du branle d'osso, qu'il y aura le branle d'osso et le branle des crapauds. Voilà.
Ouais, bonsoir.
Tu peux te présenter et nous dire ce que ça fait Diatao plus toi.
Alors, ben moi du coup c'est Mathieu. Donc pour me présenter, je suis dans le milieu du folk depuis 2012. J'ai découvert ce milieu-là, j'ai déménagé dans le Diwa en fait quelques mois avant de découvrir mon premier bal. Et il se trouve que par pur hasard, entre guillemets, je vivais à 300 mètres de la salle où il y avait le festival de Châtillon, qui était à l'époque l'un des plus gros festivals dans le quart sud-est de la France. Et du coup, bah, je connaissais pas et j'ai été voir. Et j'étais complètement conquis. Du coup, quelques mois après, je me suis mis à l'accordéon, j'ai commencé à aller prendre des cours, à suivre des stages. Et non, pas du tout. Non, quand j'ai découvert le festival de Châtillon, j'entendais même pas un rythme. Donc ça m'a demandé beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de travail. Et du coup, ben, en fait, après, avec Tao, on a commencé à jouer dans les Boeufs il y a plus ou moins 3 ans, je dirais, à peu près. À l'époque,
toi, c'est ta première expérience de jeu en public, c'est les Boeufs il y a 3 ans.
Non, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Astriam, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était en 2017-2018. Avec 2 autres musiciens. Après, on a tourné surtout dans la Drôme, en fait. On n'a pas trop voyagé. C'est très différent de ce qu'on fait aujourd'hui avec Edencia, où on voyage tant en France qu'à l'étranger.
Si on pouvait plus jouer en France, ça serait cool.
Et voilà, là, c'est pas du tout les mêmes objectifs. À l'époque, on s'amusait, et là, avec Tao, on est vraiment dans une démarche professionnelle. Et aussi d'exploration... à travers nos compos et tout ça.
On dit Edencia ou Edencia ?
Edencia. C'est le nom d'une constellation dans l'univers. Et il y a le mot danse dedans. Et voilà. Et du coup, je trouvais ça très cool.
T'as commencé à en parler. Quel est votre répertoire? Quelle est la part de récupération de morceaux trad, de composition, etc. Les types de danse. Enfin, comment est-ce que vous pouvez présenter votre répertoire?
Alors, du coup, le répertoire, c'est à 3/4, je dirais, de la composition. Un peu plus même. Ouais, 80%, je pense. Et en gros, en traditionnel, on a gardé un branle de Noirmoutier et un Valenki. Voilà, tout le reste c'est des compos. Pour moi, l'idée de ce duo, c'était vraiment, au début on a fait beaucoup de reprises pour pouvoir commencer à jouer. Pour moi, l'idée c'était vraiment de mettre notre couleur et notre énergie à travers nos morceaux.
Vous diriez que c'est quoi du coup cette couleur que vous avez envie de donner? Comment vous définiriez le style auquel vous tendez ou que vous avez peut-être déjà atteint?
Ben moi je dirais c'est comme en tout cas quand je compose, je compose dans l'idée de proposer quelque chose qui soit à la fois énergique, dynamique et en même temps quelque chose de chaleureux dans la musique. Ouais, c'est les mots qui me viennent là.
Moi, pour faire rentrer les trucs dans des cases, je dirais qu'on est dans le domaine du néo-folk, parce que on n'est pas dans des traditionnels et tout ça, ça reste beaucoup de compositions, mais sans trop partir très très loin dans les arrangements, on reste quand même très centré sur la danse et sur les pas. Les pas normalement sont dans la musique.
Et ce qui reste important, je rajouterais, c'est l'accessibilité. C'est on est oui, exactement. En fait, pour moi, on joue pas en concert. En fait, on fait pas une performance technique. C'est vraiment l'idée, c'est de permettre aux gens de s'amuser. Et si on fait des choses trop techniques et que les gens n'arrivent plus à entendre le rythme ou que ça part trop dans les contretemps ou je sais pas, à la fin, les gens s'amusent plus vraiment. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Donc pour moi, c'est ce qui est vraiment important, c'est que ça reste accessible pour tout le monde.
Comment est-ce que vous pensez la complémentarité entre vous deux dans le groupe en sachant que vous avez le même instrument? Par exemple, dans les éoles, il y a un chroma et un diato, donc on peut dire qu'il y a des couleurs différentes qui viennent de là. Comment est-ce que vous gérez le fait que vous avez tous les deux le même instrument, mais qu'il faut essayer d'être complémentaire?
Et par ailleurs, est-ce que c'est vraiment le même instrument?
Alors, non seulement c'est le même instrument, mais en plus c'est le même modèle. Mais les différences sont... c'est pas le même bois. Le mien est un peu plus clair, c'est du padouk. Et celui de Mathieu, il est plus foncé, je ne sais pas ce que c'est.
C'est du wingé.
Sur scène, on voit une vraie différence visuelle.
Ouais. Mais c'est le même modèle, c'est pas le même plan de clavier, parce que les diatos et les plans de clavier, c'est une grande histoire de complexité, il y en a rarement deux qui sont les mêmes. Et la principale différence, c'est que c'est pas la même personne derrière. Voilà, c'est ça qui fait... Heureusement, on a des styles de jeu assez différents. Moi, je me décrirais plus... comme énergico-chaotique. Voilà, la partie aléatoire en live, en général, c'est moi. Mathieu est beaucoup plus fiable. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Il y a une certaine stabilité chez Mathieu qui vraiment tient les murs. Et moi, j'ai tendance à être un peu moins fiable.
Électron libre.
Et un petit peu plus électron libre. Mais voilà, je sais pas toi comment tu vois ça.
Ouais, moi, la complémentarité, je le vois dans le fait qu'on a des manières différentes de jouer, des manières différentes de jouer les mélodies, des manières différentes d'accompagner rythmiquement aussi. Et ça, combiné au fait d'avoir effectivement deux bois différents, même si on a le même modèle d'accordéon, ça fait que finalement, ça apporte une richesse. Parce qu'effectivement, si on avait la même manière d'accompagner, la même manière de jouer mélodiquement et exactement le même bois, autant jouer tout seul. ça ferait pas beaucoup de sens en fait.
Ça ferait redite entre les deux trucs.
Mais ça, au début, ça a été un gros challenge aussi quand on a commencé il y a un an et demi à composer les premiers morceaux. C'était assez chaotique, assez difficile déjà parce qu'on se connaissait pas bien. Et arriver à faire sonner ça, à le rendre intéressant musicalement, c'était un gros travail. Et en fait, on est très autodidacte aussi, donc du coup. Voilà, on a énormément appris en fait ces deux dernières années ensemble.
À la base, je devais aller jouer en Italie et vu qu'on commençait à jouer un peu en bœuf tous les deux avec Mathieu, il y a l'organisateur qui disait « Ouais, vas-y, demande à Mathieu s'il veut venir jouer avec toi. » Et moi, je lui ai demandé, mais pas sur le bon numéro. Et en fait, l'organisateur, il n'a pas tout à fait compris que j'allais demander à Mathieu, mais que j'avais pas eu de réponse. Et en fait, Mathieu, un jour, il a vu passer sur le truc qui avait moi et son nom. Et là, il m'a contacté. Et là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas le bon numéro. Et donc, on a monté une heure et demie de set en deux semaines, même pas.
En cinq jours.
En cinq jours. où là, en fait, on a fait que des reprises, des saucissons, des morceaux qu'on connaissait et quelques trucs. Parce que voilà, quoi, c'est l'organisateur a forcé un peu ce truc-là. La création d'Edencia, c'est un peu une combinaison de bœuf plus hasard d'organisation.
Mes influences, j'ai pas spécialement grandi dans un milieu musical. C'est comme en fait les musiques, souvent je les entends, elles m'arrivent dans la tête. Et du coup j'écris avec ça et ça a toujours des couleurs différentes.
Moi je sais que là en ce moment je suis vachement influencé par les musiques de La Réunion. Parce que dans mes autres formations musicales, je suis dans un groupe où on joue des chansons de La Réunion. Ça s'appelle Pocorder. Et donc, il y a eu l'apprentissage de ces rythmes-là qui sont pas évidents pour quelqu'un abreuvé à de la musique occidentale. Et c'est vachement bien. C'est vraiment vachement bien. Entre ça et la musique, le blues du désert que j'écoute énormément en ce moment. Enfin, depuis que je suis petit, mais là, Touareg, blues du désert, musique malienne, enfin, c'est un grand ensemble qui se ressemble plus ou moins à du rondo, hein, faut pas se le cacher. C'est pour ça que j'aime ça.
Et sur ce que deviendra Edencia dans un avenir plus ou moins proche
Moi j'espère déjà qu'on arrivera plus facilement à se faire programmer. On a une tournée qui se prépare en Allemagne et en Pologne pour le mois de septembre l'année prochaine. Et en France, en fait, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de concurrence, j'ai l'impression. Et voilà. Et du coup, pour l'instant, on joue globalement loin de chez nous, voire très loin.
Voilà. Et pour le futur d'Edencia, déjà le futur, c'est on va tenter d'enregistrer un EP. À bientôt. On lance des souscriptions. Voilà. On peut faire la promo de ça. Je pense qu'on peut, pour des souscriptions, envoyer un mail à notre adresse qui est edencia26@proton.me, comme ça.
Juste pour un petit mot pour mon solo, c'est quelque chose que j'ai. Que j'ai créé très récemment, là en septembre. J'ai été jouer à Lisbonne le mois dernier. Donc là, c'était encore un nouveau challenge pour moi. C'était le challenge d'oser jouer seul sur scène. Et en plus de dire oui à un organisateur pour aller jouer à Lisbonne il y a 3 mois, alors que j'avais pas encore les morceaux écrits. Voilà, c'est ça.
Vous êtes toujours dans l'écho du parquet et Tao nous parlait justement des influences qui peuvent être assez lointaines, en parlant notamment d'influences réunionnaises qu'il avait en ce moment, ce qui nous conduit à vous parler d'un groupe Soon qui lui aussi a des influences un peu lointaines, puisqu'il se situe entre Centre-France et Amérique latine.
Alors, entre Centre-France, on est en plein milieu de l'océan Atlantique, alors du coup.
Exactement, et les musiciens de Soon nous expliquent justement qu'il n'y a qu'un pas, puisque Lambro... qui est la rivière de leur bled. L'Ambro se jette dans l'Allier, qui lui-même se jette dans la Loire, qui se jette dans l'océan Atlantique, qui mène au Brésil.
Ah ben et voilà. C'est logique.
Donc c'est donc armé de cette imparable concordance géographique que les musiciens dressent des ponts là-dedans en façonnant un mélange qui n'a rien d'artificiel et qui colore les bourrées qui peuvent d'ailleurs aussi être des milongas ou des rumbas, selon votre sensibilité.
Ça dépend.
Effectivement, à chaque morceau...
Ça doit faire un beau bordel sur le parquet entre ceux qui font la milonga et ceux qui font la bourrée en même temps. Mais ça doit être beau à voir.
C'est vrai que la pratique de la chose, on a du mal à s'imaginer. Alors, parce qu'en plus, à chaque morceau, le titre est vraiment associé à deux noms de danse, latino ou trad-européen, donc de quoi accentuer la confusion. L'instrumentarium côté Centre-France, on a vielle et cornemuse, et côté latino, guitare et percussion, pour accorder tout le monde une basse électrique. Mmh. La formation est assez récente et correspond à un duo puis un trio autour de Patrick Bouffard, le vielleux, et enfin un quintet après la pandémie de Covid-19 et donc la mise en pause des bals à cette époque-là qui fait émerger l'envie chez eux d'une formation de concert. Mmh. D'après, donc on apprend tout ça d'après le livret du premier disque de Soun qui s'appelle Rio d'Ambro, qui est sorti l'an dernier, en mars 2023. Pour autant, il nous semble que ce qu'on trouve sur le disque, en fait, malgré cette volonté de concert, soit tout à fait dansable, comme on disait tout à l'heure. Plusieurs musiciens sont passés dans la boucle de Soun avant que le quintet soit fixé et ont apporté l'un du péruvien, l'autre un foro, des influences uruguayennes. C'est assez divers, voilà, ça reste sud-américain, mais assez divers. On vous donne donc un aperçu de cette aventure latino-bourbonnaise avec le morceau Papillote, un afro-cubain cercle circassien.
Thank you. pas de côté.
De pas de côté.
Et dans le pas de côté, on va faire un autre pas de côté. On vient d'en faire un, toujours dans l'univers du trad, en allant chercher les musiques latino-américaines. Et là, on va faire un pas de côté.
Mais
plutôt...
C'est un pas de géant.
Un pas de géant, ouais. Du coup, ça fait deux pas d'un côté, puis on va faire un pas de l'autre côté maintenant, avec une petite chronique qui va servir de mise en contexte pour ce qu'on vous proposera lors du prochain épisode de l'Écho du Parquet. À savoir une interview du groupe breton Triskill, qui est un authentique groupe de fest-noz, mais dont la musique est aussi authentiquement métal. D'où, pour situer les choses, cette petite chronique pour vous présenter rapidement un courant qui s'est développé à l'intérieur du métal et qui s'appelle le folk metal. En gros, cette semaine, on parle du folk à l'intérieur du métal, et la prochaine fois, on parlera du métal à l'intérieur du folk.
Vous suivez toujours ?
Tout, c'est bon pour tout le monde, c'est dialectique. Les fondateurs du métal avaient déjà un tout petit rapport au trad. Si on prend Led Zeppelin, je pense que tout le monde connaît le morceau Cashmere de Led Zeppelin, une lourdeur mais aussi beaucoup d'influence orientale. Du côté de Deep Purple, le guitariste Richie Blackmore avait lui aussi quelques influences d'oriental qu'on retrouve dans certains morceaux. Et après différents groupes, aujourd'hui, lui ne fait plus que de la musique acoustique de la Renaissance avec sa copine Candice Knight. Et ils ont un groupe qui s'appelle Blackmore's Night. Alors lui, il a complètement quitté les guitares, musique Renaissance, il trouve qu'il n'y a que ça d'intéressant. Et même Black Sabbath... qui on n'entendrait pas forcément ça, avec sur le meilleur album de toute l'histoire de l'univers, l'album Master of Reality en 1971, nous proposer cette petite parenthèse instrumentale qui nous fait voyager dans le temps. Donc le métal a toujours eu des influences vaguement folk qui sont liées à l'inspiration médiévale du genre. On pense aux guerriers, à leurs épées qui vont combattre des dragons ou qui vont monter sur des navires, conquérir d'autres pays, tout ça. Donc ce côté un peu médiéval s'est toujours retrouvé. Mais le courant vraiment folk metal, il naît au début des années 90 avec un groupe anglais qui s'appelle Skyclad. Et qui incorpore, alors lui, de manière beaucoup plus systématique, des éléments folk, et surtout qui met en avant la présence d'un violoniste dans ses rangs, un peu comme Kansas le faisait dans les années 70 pour le rock progressif, et là, du coup, ça donne un côté beaucoup plus folk. On peut les considérer vraiment comme les fondateurs du genre. Leur essor à eux, c'est contemporain de la mode du style pagan dans le métal. Alors pagan, qui n'a rien à voir avec le label occitan dont vous a parlé il y a quelques temps, mais qui est plutôt l'idée de développer une esthétique qui se veut païenne, c'est-à-dire orientée vers les racines pré-chrétiennes de l'Europe. Ce qui peut parfois politiquement très mal tourner, mais pas forcément non plus. Alors voici par exemple un exemple avec un extrait d'un titre de Skylad de 1993 qui s'appelle « Thinking Aloud ». Ah, le rondo en couple, il n'y a que ça de vrai. Après, Skyclad arrive donc une flopée de groupes plus ou moins déguisés en costumes plus ou moins médiéval et des groupes plus ou moins allemands et par ailleurs plus ou moins intéressants. Et à mon avis, généralement plutôt moins que plus, parce que ce qui dans le courant folk metal a été beaucoup mis en avant, c'est généralement le côté festif,
de la chose.
La fête de la bière, voilà, les influences celtiques.
Voilà, d'où l'influence, le côté un peu fête de la bière de ces ambiances, qui repose à mon avis souvent sur un métal un peu lourdingue avec des rajouts d'instruments trad. Voilà. Alors je ne vais pas citer de nom, mais en gros c'est tous les gros noms du genre. Mais s'est développé aussi un autre courant plus underground, dont le choix esthétique a plutôt été de garder le côté sombre du métal, quitte même à se passer d'instruments électriques et à jouer en acoustique. Alors le pionnier de ça, c'est un peu dans les Pyrénées, un groupe français qui s'appelle Steel Volk et qui démarre au milieu des années 90 et qui sont plutôt inclassables, avec, j'imagine pour eux, une difficulté, il faudrait leur demander, à se faire une place à l'époque ou bien dans le monde du folk ou bien dans le monde du métal. Et ils ont par exemple récemment ressorti sur leur page Facebook un vieux commentaire du magazine Hard Rock Magazine qui présentait leur musique, mais alors complètement à contresens. Je cite cette chronique de l'époque. « Préparez la garbure et mettez vos chaussettes et sabots, ça va danser la bourrée. » Steel Volk est de retour avec un troisième album de folklore pyrénéen qui sent bon le jambon grillé sur la braise un jour de neige.
Voilà, comment faire un ramassis de clichés en moins d'une phrase.
Voilà, pour un groupe qui voulait surtout pas faire ça. Voilà. Alors ce que visait Steel Volk, c'était dès l'époque plutôt rechercher l'ambiance d'un sabbat des sorcières un soir de pleine lune, pas d'une fête de la bière. Comme en témoigne par exemple le morceau « Adumestica una terro », je ne sais pas prononcer l'occitan, qui est un extrait de leur album Satyre Cornu. Ce morceau se trouve être une adaptation du titre To Tame a Lane d'Iron Maiden, qui évoque l'univers de la série Dune, Steel Volk. Et après Steel Volk, il y a aujourd'hui en France le label Antique qui publie pas mal de musique dans cet esprit pour les gens que ça intéresse. Mais puisque l'on parle de métal, on va forcément plutôt se déplacer vers le nord de l'Europe et les pays scandinaves qui règnent en maître sur le genre du haut de leur héritage viking. Parmi toute la flopée de
qui
groupes...
Qui danse la polska en concert métal.
Ah, ça j'aimerais trop voir. Ça j'aimerais trop voir. En plus, la lourdeur de la polska, là, à un moment donné, le boom, ça... un peu comme les crapauds ou un rondo du diwa en métal, j'aimerais trop. Diatao, si tu nous écoutes. Parmi toute la flopée donc, de groupes qui ont développé cette esthétique depuis le précurseur Corton avec son groupe Bathory, plutôt que de multiplier les noms inutilement, je voudrais juste vous faire goûter deux ambiances nourries de nickel harpa et de mélopée traditionnelle scandinave. Voici d'abord par exemple le projet Skugja, qui réunit deux piliers de cette scène, Ivar Bjornsson du groupe Enslaved et Einar Selvik des fameux Vardruna avec lesquels nous conclurons l'émission. Leur titre Skuggeslaten, sorti sur leur premier album en 2016, donne un bon aperçu de ce que ça peut donner une fusion des instrumentales, qui est pleinement réussie. Autre exemple maintenant avec Mirkur, le groupe entre guillemets hein, de la danoise Amalie Brune, qui comme souvent dans ce milieu est multi-instrumentiste et fait un peu tout elle-même dans son studio. Ça marche pas en live, évidemment, mais en studio, ils font comme ça. Son projet repose sur le contraste entre des atmosphères féeriques qui sont construites autour de sa voix cristalline. Là, c'est mon tour pour les clichés, quand même. Et forcément, en contrepoint, la noirceur sinistre et gothique qui est issue du black metal qu'elle aime aussi. Le troisième album de Mirkur, c'est un pur album acoustique de folk scandinave. Là, pour le coup, on est vraiment en plein dans notre milieu. Mais pour un peu plus de dépaysement encore dans l'écho du parquet, voici plutôt le début de Skogen Skulle Dö, le titre qui ouvrait son premier album en 2015. Et nous allons conclure cette chronique en acoustique avec le groupe Vardruna, que vous allez commencer à entendre en fond d'ambiance derrière moi, parce que les groupes de ce style commencent à peu près tous leurs morceaux par une longue intro de 1 à 3 minutes, pendant laquelle on entend invariablement quelque chose comme le crépitement du feu, le vent dans les branches ou dans la voile du drakkar, le cri du corbeau ou de la chouette, le hennissement du cheval, etc., etc. Vardruna, c'est un groupe qui est fondé par des musiciens issus de la scène black metal norvégienne qui se sont dit « Bon bah, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la logique néo-païenne et chercher à ressusciter ce que pouvait être l'ambiance musicale chez les Vikings il y a un bon millénaire ?» Et il y a chez eux, au-delà même des instruments, tout un travail sur les sons des éléments naturels dont je vous passe bien volontiers le trip mystique associé, mais qui en faisait le groupe idéal pour faire la bande-son de la série télé Viking, ce qu'ils ont d'ailleurs en partie fait. On les entend très souvent sur la série, pour ceux qui ont vu la série. Et c'est donc avec leur titre Helvegen, paru en 2013, que nous vous disons en vieux norrois, au revoir et à la prochaine.
Et à la prochaine.